le magazine citoyen avec la province Sud, une province citoyenne.
La province Sud, agir pour l'avenir.
Bonjour, soyez les bienvenus dans Citoyen, un magazine qui n'aura jamais aussi bien porté son nom puisque Citoyen est le magazine de ceux qui participent à la vie et à la construction de la Nouvelle-Calédonie. Magazine consacré ce midi à un anniversaire, les 40 ans de Radio Rythme Bleu, 40 ans de votre radio. C'est le 3 mars 1985, en pleine période des événements, qu'était présenté le tout premier journal d'information de Radio Rythme Bleu. Le début d'une aventure qui se poursuit sans s'être jamais interrompue avec une radio qui s'est développée enrichi, mais qui continue d'accompagner les Calédoniens au travers de l'information, mais aussi de la musique, des jeux et des services. Les 40 ans d'RRB, pour en parler, je suis en compagnie de Christian Prost, le fondateur de Radio Rythme Bleu. Bonjour.
Bonjour. Retraité.
Elisabeth Noir, la directrice générale d'RRB. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Lionel.
Et de Jean-François Baudin, à qui j'ai piqué la place après le journal, le directeur adjoint de Radio Rythme Bleu. Bonjour. Rebonjour Jean-François.
Oui, rebonjour Lionel.
Elisabeth Noir, pour commencer, ce tout premier journal d'information, c'était le 3 mars 1985, j'ai compté tout à l'heure, c'était il y a exactement 14 611 jours. C'est vous qui avez présenté ce journal, Elisabeth. Comment ça s'est passé? Parce que faut dire un peu les coulisses de la radio, quand on nous entend derrière le micro, on a l'air très à l'aise, mais on a toujours un petit peu les pépettes quand on rentre en studio. J'imagine que pour le tout premier journal, ça ne devait pas être simple.
Ça, je vous le confirme, je m'en souviens quand même encore, même si c'est vieux, 40 ans. Ce 3 mars 85, en fait, on l'avait préparé depuis 3 semaines, allez, on va dire, puisque moi j'étais arrivé en Calédonie en mi-février 85. Je suivais l'actualité calédonienne depuis ce qu'on a appelé les événements, depuis novembre 84 et le boycott des élections territoriales par le FLNKS. Donc j'étais informé de l'actualité immédiate, mais je connaissais pas grand-chose de la Nouvelle-Calédonie, il faut dire ce qui est. Donc j'étais arrivé mi-février. Et là, il avait fallu, avec Christian Prost, on y reviendra bien sûr, créer, bâtir une radio complètement. Donc on avait une petite maison qui était dans le Haut-Magenta, qui ressemblait à rien, enfin qui ressemblait en tout cas pas à une radio. Mmh. On avait improvisé une petite rédaction dans l'entrée de la radio. Derrière, il y avait une grande pièce qui était la discothèque. On avait mis un rideau qu'on tirait, qu'on fermait, et on faisait taire les gens quand l'information commençait. Pour tout vous dire, je dormais même dans la radio. Donc, c'est vous dire, c'était un peu de l'improvisation. Mais donc, pendant 15 jours, on avait tout préparé. On avait fait une boucle musicale, on avait fait les jingles, on avait fait quelques petites promos pour dire que voilà. Et puis, ça avait été le bouche à oreille. Il va y avoir une radio. Enfin, RRB va faire de l'information, on va lancer le journal. Voilà. Mmh. Et donc, ce matin-là, 6h30, donc on se lève, vous savez ce que c'est, les matinales. Donc on se lève à 3h30, 4h pour préparer un journal qu'on faisait à l'époque sur la base de l'AFP notamment. L'AFP avec téléscripteur, donc fallait découper les dépêches, fallait, voilà.
Ça faisait un bruit infernal dans les rédactions.
Ça roulait sous le bureau aussi.
C'était un peu épique surtout, c'était l'époque, il n'y avait pas Internet évidemment, il n'y avait pas le téléphone portable, il n'y avait pas, voilà. Et ce premier journal, le 3 mars 85, c'était la rentrée scolaire dans un territoire extrêmement tendu. On a dit les événements, c'était une guerre civile, il y avait des tas d'endroits où on ne pouvait pas aller, où on ne pouvait pas circuler. Il y avait des écoles qui ne pouvaient pas ouvrir ce jour-là ou qui ouvraient sous protection policières ou des forces de l'ordre. Et nous, j'étais très fier, on avait comme invité Wema Delin, qui était le ministre de l'enseignement ou de l'éducation, je ne sais pas comment on disait, du gouvernement de Dick Ukwewe, et qui donc pour ce premier journal de Radio Rythme Bleu était là, était notre invité pour nous parler de cette rentrée sous tension. Et ben voilà, c'était alors évidemment, on avait un peu peur en prenant l'antenne, on se disait comment ça va se passer, est-ce que techniquement ça va marcher, est-ce que les gens vont être au rendez-vous, et on a eu que des bonnes surprises après, parce que ça a tout de suite... En toute modestie, ça a été un succès immédiat. Les gens attendaient cette radio, ils attendaient une voix qui défende la Calédonie dans la France, puisque ça n'existait pas à ce moment-là. Et donc, ça a bien marché tout de suite.
Au-delà du contexte que vous venez de nous raconter, de ce 3 mars 1985, vous gardez quel souvenir de ce jour-là? S'il y avait un mot?
Un mot, là, vous êtes dur.
Je sais, c'est pour ça que je pose des questions. Stress.
Exactement. Jean-François me connaît bien. Stress, oui, forcément. On a l'adrénaline, on arrive à l'antenne, on ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas ce qu'on va dire. On veut être à la hauteur quand même. On se dit, on crée une radio, il faut que ce soit bien dès le premier jour. Donc voilà, oui. Stress, tension, un peu émotion, tout ça.
Jean-François Baudin, vous êtes RRB depuis longtemps. Alors, vous êtes arrivé RRB, reparti en métropole, revenu. et là, vous êtes là.
Ça fait un total cumulé de 17 ans.
Ça fait un total cumulé de 17 ans. C'est quoi, selon vous, la particularité d'Erard B ?
Oula, vaste question. La particularité, je ne sais pas, je parlerai plutôt des particularités de Radio Rythme Bleu, parce qu'il y en a un certain nombre. Alors, pour en citer quelques-unes, hein, seulement, je parlerai d'abord de la fidélité et de la stabilité. Fidélité et stabilité à ce qui a été sa mission dès le début, la Calédonie dans la France. Et ça fait 40 ans qu'elle n'a pas dévié de cette ligne éditoriale. C'est quand même important et c'est à souligner, parce que dans le monde médiatique, hein, on le connaît à droite à gauche, ça change de propriétaire, ça change de ligne éditoriale, ça change de tout. Là, il y a une stabilité, une fidélité depuis 40 ans qui est assez extraordinaire. Donc, je pense que c'est une particularité. L'autre, je crois que j'enfonce un peu les portes ouvertes, mais c'est l'exigence. C'est-à-dire que les Calédoniens le savent bien, c'est une radio où l'exigence dans tous les domaines, l'information bien sûr, mais aussi l'animation, l'accompagnement, les jeux, enfin, c'est une radio qui dans tous les secteurs a essayé d'être performante et est performante et réussit à être performante. Donc c'est quand même une particularité importante. Puis je vais en citer une troisième, mais elle est aussi évidente que les autres. C'est une radio proche des Calédoniens. C'est quand même pour eux qu'on fait ce travail, avec eux aussi. Et donc voilà, on a des retours directs. C'est ça qui est bien aussi quand on fait de la radio en Calédonie. C'est que quand on dit quelque chose et puis qu'on sort dans la rue ou qu'on va à droite à gauche après, généralement, on a des commentaires plus ou moins élogieux, plus ou moins sympathiques, mais toujours conviviaux. Donc ça, c'est vraiment très, très bien. C'est aussi une particularité d'une radio qui est insérée complètement dans son tissu.
Christian Post, vous êtes le fondateur d'Erard B. Vous avez pendant longtemps été son président. Pourquoi est-ce que vous avez créé cette radio ?
Oh, c'est une longue histoire et une longue aventure. Dans ce temps-là, que les moins de, je ne sais pas combien d'années, ne peuvent pas connaître.
De 40 ans.
Il y avait, en Calédonie, des événements qui faisaient vaciller l'espoir des gens. Il y avait un doute, il y avait une peur des lendemains, etc. À ce moment-là, Jacques Lafleur dit Koukéoué, on demandait à Charles Pasqua, Jacques Chirac et d'autres, du renfort. Donc, ils ont envoyé une équipe dont je faisais partie en Calédonie pour aider, notamment dans les problèmes de sécurité. Il y avait des fermes brûlées, des gens agressés, etc. Puis s'est présenté le problème de la communication. La Calédonie dans la France n'avait pas de voix. Pas un journal, pas un machin, elle n'avait pas de voix. Donc, l'opportunité s'est présentée. Jacques Lafleur, Didier Leroux, Pierre Fougère, enfin, ont accompagné, m'ont demandé, parce que j'avais fait par le passé de la télévision et de la radio, m'ont demandé de développer. On a récupéré une petite radio qui existait, qui faisait que de la musique et qui n'était pas autorisée. Bon, on s'attachait à ça, on l'a développée. Elisabeth n'a pas dit, mais elle avait à l'époque un réseau de broussards de renseignements directs des gens qui était très, très important parce que, comme elle l'a dit, on était attendus. Et très vite, les gens sont venus, j'allais dire même les indépendantistes, écouter le professionnalisme de Radio Rythme Bleu. C'est le cas aujourd'hui encore.
Christian, on en parlait avec Elisabeth au tout début de cette émission. Le 3 mars 85, vous, quel souvenir vous en avez de ce jour, de cette journée du 3 mars 85 ?
Ben, j'ai le souvenir que j'avais fait venir une jeune femme, Elisabeth, 25 ans, en lui faisant signer un contrat pour 9 mois. Je l'avais connue à Alouette FM, la radio de Philippe de Villiers, et je savais tout le potentiel qu'elle avait. Donc c'est une aventure qui commençait, et j'étais confiant. Et puis, je sentais bien ce besoin, et à l'époque, je vous dis, Jacques Lafleur était très content et a été, on peut le dire, très gentil avec Elisabeth.
Elisabeth, Jean-François, Christian, je fais une question ouverte, comme ça, ce sera plus simple, chacun prend la parole comme il veut, vous êtes à la maison. Quels ont été les temps forts de l'histoire de Radio Rythme Bleu ? Je commence avec vous, Elisabeth, quand même.
En 40 ans, vous imaginez combien il y en a eu ? Ça a été une succession de temps forts, et il y en a encore presque tous les jours, quoi. Qu'est-ce qu'on peut retenir ? C'est l'installation, d'abord la création, dans un paysage un paysage audiovisuel qui était très particulier. Encore, c'est en 1985, il y avait un journal, Les Nouvelles Calédoniennes, une radio, on l'appelait RFO, à l'époque c'était RFO, et une chaîne de télé qui était RFO aussi, quoi. Mm-hmm. Et donc, c'était vraiment l'arrivée d'RRB, c'était déjà un événement en soi, quoi, qu'il y ait une radio libre, comme on dit, une radio associative, qui en plus porte un message politique, assume un message politique d'être la voix de la Calédonie dans la France, c'était un événement. Ensuite, bah, ça a été, c'est une radio qui a grandi au fur et à mesure, tout en accompagnant l'histoire de la Nouvelle-Calédonie et la vie des Calédoniens. Donc il y a eu plusieurs bons. D'abord, cette petite radio qui commence avec un seul émetteur qui émet sur Nouméa. On crée un téléphone de brousse, c'est-à-dire un téléphone où les auditeurs de l'intérieur qui ne pouvaient pas capter RRB pouvaient appeler pour avoir notre journal d'information qui était mis en ligne, qui était mis au téléphone, c'était des cassettes à l'époque, enfin bon, c'était... La technique a beaucoup, beaucoup changé aussi en 40 ans. Hein. Ensuite, ça a été la création de radio Petite Sœur, comme on disait. On a créé une radio Baie Tortue à Bouraille, radio Fréquence Nord à Koumac, radio Côte Est à Poix-d'Imier, pour avoir des relais. Donc ces petites radios avaient leur propre musique, enfin faisaient leur propre animation, mais diffusaient les journaux de Radio Rythme Bleu. Après, moi j'aurais tendance à vous dire que les temps forts, ça a été la manière dont RRB a pu vivre, suivre, accompagner l'évolution politique de la Nouvelle-Calédonie. Alors bien sûr, moi c'est mon secteur, c'est ce qui m'a toujours passionné, donc l'actualité politique, et ça, on a été servi. Donc, y a eu la sortie des événements, il y a eu bien sûr l'affaire d'Ouvéa, ça restera, comme journaliste, un événement extrêmement marquant et qu'on ne peut pas oublier. Il y a eu bien sûr la signature des accords de Matignon, qu'on a accompagné à l'époque. Radio Rythme Bleu était très proche de Jacques Lafleur, c'est pas un secret. Et quand Jacques Lafleur nous a appelé depuis Paris pour dire qu'il avait signé les accords de Matignon, naturellement, on a pensé que c'était la solution pour la Nouvelle-Calédonie, qui sortait de 4 ans de guerre, de tensions, de violences. Ça n'a pas été bien accepté par nos auditeurs, il faut s'en rappeler quand même à l'époque. Moi, c'est l'un des moments qui m'a frappé, c'est vrai, parce que un certain nombre de Calédoniens ne comprenaient pas, avaient l'impression qu'on les trahissait en choisissant de signer un accord. Alors après, il y a eu toute l'évolution politique de la Nouvelle-Calédonie. 10 ans après les accords de Nouméa, bien sûr, on s'en souvient, on attendait, un peu comme la semaine dernière, on attendait en bas du Haut-Commissariat que les délégations finissent de négocier et nous disent s'il y avait une fumée blanche ou non jusqu'à la signature. Et puis voilà, ça a été cet accompagnement permanent de la vie politique de la Nouvelle-Calédonie. J'ai eu la chance de pouvoir la suivre de très près en participant à tous les comités des signataires, en allant à Paris avec les délégations pour voir comment les choses se passaient. Et puis ça a été le développement de cette radio qui, au début, on était 5-6. Il y avait Eugénie, qui est toujours là d'ailleurs, qui était déjà à la création d'RRB il y a 40 ans. Mais après, on a fait venir des gens, bien sûr, on a recruté, on a développé l'animation également, on a fait une radio complète et concurrentielle qui s'est imposée progressivement dans le paysage médiatique.
Vous le disiez, Elisabeth RRB accompagne l'histoire de la Calédonie, l'histoire politique, vous venez de l'évoquer, mais pas seulement, il y a aussi l'histoire culturelle, l'histoire sportive de la Nouvelle-Calédonie, c'est important.
Absolument, non, j'ai bien dit, moi mon secteur c'est surtout l'actualité politique, mais bien sûr oui, c'est ça, RRB est une richesse parce qu'elle est présente dans tous les domaines, et le sport, je ne suis pas la mieux placée pour vous en parler.
RRB, c'est formidable.
Oui. Christian, sur...
Le sport est une des dominantes. L'information vous fait tellement, si je peux m'exprimer comme ça, l'espace médiatique qu'il fallait qu'à côté, on donne un petit peu d'espace aux gens, d'espace de vision, machin. Et le sport a occupé une grande place à une époque où, il faut quand même le dire, Terry Théao, Ganet et d'autres comme ça, on avait Zimaco, quand on avait pléthore de champions, de gens qui marquaient l'actualité nationale du sport. Donc c'était vraiment une radio très vivante. Ce qu'Elisabeth n'a peut-être pas osé dire, c'est que la radio, c'est Radio Rythme Bleu, c'est une œuvre collective. Vous voyez, à un moment donné, le CSA m'a dit « Est-ce que vous voulez la transformer en association ?» En société. Je dis non, c'est une association, il y a tellement de gens qui ont apporté que j'aurais vraiment mauvaise grâce à la récupérer en société. Et quand je dis c'est une œuvre collective, ça va au-delà. Bon, ça repose déjà sur l'engagement, j'allais dire le sacrifice presque, que des gens comme Elisabeth ont fait, la continuité, je pense à Jean-François qui est en face de moi. Vous y avez fait 17 ans, donc vous avez aussi votre apport. Mais non, mais c'est chacun, c'est cet apport-là. Et il faut le dire aussi, une époque où les gens, les auditeurs, apportaient quotidiennement de l'encouragement, de l'information, etc., de la protection, etc.
Et Jean-François, vous l'évoquiez un petit peu, mais c'est important, c'est quand on arrive, et je me souviens d'un certain Lionel Sabot il y a une vingtaine d'années, quand on arrive à RRB, on sent une vraie proximité avec, avec les auditeurs. C'est extrêmement marquant, notamment quand on vient de Métropole, d'autres stations de radio, où voilà, on est la voix du matin, du soir, peu importe, mais on est simplement une voix que personne ne connaît. Ici, c'est très différent.
Oui, alors c'est très différent, parce que effectivement, la radio est écoutée sur l'ensemble du territoire, par tout le monde, donc elle y joue un rôle absolument fondamental, mais... Au-delà du fait qu'on ait écouté les uns les autres, je crois que quand on arrive dans une radio, moi j'étais pas là en 85, je suis arrivé en 92, donc 7 ans après le début dans le fameux petit appartement de Magenta que je n'ai pas connu. Mais on rentre dans une histoire quand on arrive dans la radio. On rentre dans l'histoire de la radio, bien sûr, mais on rentre aussi dans l'histoire de la Calédonie. Et l'histoire de la radio et de la Calédonie, ces 40 dernières années, sont intimement liées. Puisque voilà, la radio a accompagné, comme le disait Elisabeth, tous les développements, tous les grands événements. Donc c'est ça qui est le plus important. Alors effectivement, on a l'impression, peut-être un peu plus que dans des radios métropolitaines. Moi, j'ai travaillé dans une radio où au début, il y avait 300 000 auditeurs par jour, à la fin 600 000. Ça peut paraître beaucoup par rapport à la Calédonie, mais on n'a pas le contact qu'on a avec les auditeurs ici, où on a les retours directs, où la vie de la radio et de la Calédonie s'organise dans le débat permanent, et c'est vraiment passionnant.
Précisons que Jean-François était directeur des Radio Chrétienne de France.
Excellent directeur, d'ailleurs. Puisque nous avons officié ensemble.
On en parle après, monsieur.
Voilà, on en parlera après. RRB, comment a-t-elle évolué, cette radio, Elisabeth ? Parce que la radio de 85, forcément, c'est pas celle de 2025. Mais est-ce qu'il y a quand même des choses qui sont toujours là entre 85 et 2025.
Comme le disait Jean-François tout à l'heure, je vais répéter, ça reste la fréquence aux couleurs de la France. C'est un engagement, c'est la raison d'être de Radio Rythme Bleu, et c'est un engagement que nous avons maintenu et qui existe aussi bien en 2025 qu'en 1985, en s'adaptant à chaque fois au gré des événements. Je racontais tout à l'heure à quelqu'un... Au début, avec les indépendantistes, les relations étaient un petit peu tendues, forcément. RRB était une radio très militante et les choses se sont apaisées avec la signature de l'accord de Matignon. Et là, on a commencé à avoir des... Ce qu'on n'avait pas à l'époque, on recevait des indépendantistes. La première fois, ça a été pratiquement un événement. C'est François Burke, qui était président de l'Union calédonienne, qu'on a reçu dans nos studios. Et tout le monde trouvait ça exceptionnel qu'un indépendantiste vienne RRB. Bon, vous avez compris qu'aujourd'hui, c'est devenu banal, si je puis dire. C'est devenu, voilà. Donc, il y a des choses qui n'ont pas bougé, c'est cet engagement, c'est cette exigence, Jean-François le disait aussi. On le sait, vous le savez, vous êtes bien placé pour le savoir, RRB, on bosse beaucoup, on a des exigences très précises, parce que, voilà, on veut être le plus professionnel possible, et pour apporter le meilleur produit à nos auditeurs. Pour le reste, j'ai envie de dire qu'en revanche, tout a changé dans la technique. On est passé des nagrades 10 kg aux bandes magnétiques, au son numérique. On est passé de locaux dans une petite maison à Magenta, à ces beaux locaux de la rue de Sébastopol, qui sont plus vastes, plus éclairés, qui sont très beaux, dont on est très fiers. Les équipes se sont étoffées. À l'époque, on était 5-6. À la rédaction, on était 3. Aujourd'hui, on est sur l'ensemble de la radio, on est 23 salariés. Donc tout ça, ça a changé. Mais RRB est restée la même. C'est une radio exigeante. C'est une radio qui défend la Calédonie dans la France. Et les fondamentaux n'ont pas bougé, quoi.
Aujourd'hui,
tout a changé, rien n'a changé. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai, même dans mes absences, puisque j'ai quitté le territoire en 95 pour revenir en 2011. Évidemment, quand je suis parti, on tapait encore à la machine à écrire, et quand je suis revenu, il y avait des ordinateurs. Donc, les choses avaient quand même un petit peu bougé. C'était bien,
le
reste n'avait pas changé. Enfin, on retrouvait les bases, les fondamentaux qui ont fait la radio depuis 40 ans. Et ça, c'est aussi très agréable parce que, d'une certaine façon, on sait où on met les pieds, on sait pourquoi on vient et on sait pourquoi on travaille à RRB.
Aujourd'hui, quelle est la place de Radio Rythme Bleu dans le paysage médiatique calédonien, Elisabeth ?
RRB est incontournable, en un mot.
Eh bien, c'est la fin de cette émission.
c'est une place qu'on a, en toute modestie, qu'on a acquise assez vite. Je vous le disais, quand on a commencé les émissions d'RRB en 85, très franchement, ça a été un succès immédiat parce que les gens avaient besoin de cette radio qui exprime leurs convictions, qui se fasse le relais de leurs inquiétudes, de leurs interrogations, de qui les accompagne. Donc ça a marché très bien. Sans vouloir polémiquer, on n'a pas très bien été accueillis à l'époque par les confrères. Alors, c'était une autre époque, c'était un autre temps, encore une fois, mais on venait, ça paraît curieux, j'aurais dire ça, mais on venait troubler la concurrence, on venait créer de la concurrence, alors qu'il n'y en avait pas du tout. Donc, on appelait RFO, ils m'en voudront pas, aujourd'hui, on ne le fait plus. On les appelait la radio-télévision d'État, parce qu'ils ne voulaient pas... Ils ne voulaient pas que notre micro apparaisse à la télé. Ils n'étaient pas très contents qu'on vienne apporter une autre voix. Bon, aujourd'hui, maintenant, les choses vont beaucoup mieux. Il y a plus de médias. Tout se passe bien. Mais aujourd'hui, RRB est vraiment devenu incontournable. Enfin, je veux dire, il n'y a pas une personnalité politique, culturelle, sportive, qui passe en Calédonie sans s'arrêter dans les tuyaux d'RRB. Quoi.
Jean-François.
C'était quoi votre question, Lionel ?
Alors, ma question était, quelle est la place de RRB dans le paysage médiatique aujourd'hui ?
J'avais bien compris comme ça. C'est la première place. Voilà. Non, mais voilà, c'est bien de le dire, parce que c'est une fierté aussi de se battre, de travailler tous les jours pour faire en sorte que le plus grand nombre d'auditeurs nous écoutent. Donc, c'est toutes les équipes qui sont fières de ça. Voilà, on regarde évidemment un peu les chiffres des audiences, on scrute un peu la concurrence, c'est normal, ça fait partie de notre métier. Et savoir que la radio est souvent, et très souvent, voire quasiment tout le temps devant, c'est aussi une satisfaction personnelle, non seulement pour nous, mais pour l'ensemble des acteurs de la radio, qu'on les entende ou qu'on ne les entende pas.
On a beaucoup parlé des 14 611 jours de la vie d'RRB. J'aimerais qu'on parle des 14 611 prochains. C'est quoi l'avenir de Radio Rythme Bleu?
Moi, je voudrais un peu, pour résumer ce qui m'a été dit, il y a quelque temps, j'ai décidé, moi, mon âge, l'âge aidant, d'arrêter la radio.
Christian Prost m'a toujours appris qu'il fallait bien parler dans le micro. Oui.
Et devant quelques signes, pas d'inimitié, de déloyauté, les changements d'attitude, etc., je dis un jour à Elisabeth, je crois qu'il est temps de fermer. Elisabeth me dit, il n'en est pas question. Je suis venu en 85 avec un contrat de 9 mois pour que la Calédonie se donne des institutions dans la France. Je resterai jusqu'à ce que ça soit fait. Voilà, c'est le résumé. C'est le résumé. Et aujourd'hui, moi, je regrette un peu qu'effectivement, on ait ces distances, parfois, ces marques d'inimitié. Ça me déchire profondément, moi, parce que je suis très, très attaché à la radio. Et je connais le sacrifice qu'ils font au quotidien pour que la radio maintienne sa place, soit présente, etc. La chose sûre, c'est que, je vais parodier Shakespeare, je crois, la Calédonie dans la France, pour toujours et un jour, c'est la vraie motivation de la radio, c'est le vrai engagement de la radio. Et moi, j'ai une confiance absolue dans Elisabeth, ses équipes, Jean-François, là autour, parce que je sais qu'Elisabeth était motivée par ça quand elle est arrivée, elle avait 25 ans, j'ai trahi son âge, pardon.
Surtout que c'était 24, mais bon, c'est pas grave, on va pas mégoter.
Et qu'elle a la même motivation aujourd'hui, mais que les temps sont un peu plus difficiles.
Je vais contredire Christian, une fois n'est pas coutume. comme disait Jean-François tout à l'heure, l'une des choses qui me frappe quand même depuis ces 40 ans, et même ces dernières années, et même peut-être encore plus ces derniers mois, c'est le contact avec les auditeurs et justement leur... gratitude, c'est un grand mot, leur reconnaissance, leur sympathie à notre égard. On ne va pas vous cacher que depuis le 13 mai, on a reçu un nombre de témoignages de sympathie, de remerciements, qui sont incroyables. Et effectivement, vous le disiez tout à l'heure, c'est parce qu'on voit en métropole. On peut travailler dans une radio, il n'y a pas beaucoup de gens qui vous arrêtent dans la rue pour dire merci de ce que vous faites, quoi. Alors qu'en Calédonie, c'est presque quotidien. Et moi, ça, je remercie beaucoup les auditeurs pour cette proximité et la gratitude qu'ils ont à notre égard. On fait notre boulot, nous, on l'a choisi. C'est une mission voilà, de participer au maintien de la qualité dans la France. Mais ça fait plaisir de voir que les auditeurs nous en sont gré et non merci. Pour ce qui est de la Calédonie dans l'avenir, dans 40 ans, je ferai pas l'émission avec vous. Je vous le dis.
Je vous rassure, moi non plus.
Moi non plus. Alors, on va se mettre au diapason. Vous demandez ce qui va se passer dans les 14 000 et quelques jours suivants.
14 611.
C'est très difficile à dire parce qu'on n'a pas de boule de cristal. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer dans les 40 ans. Mais la seule chose dont je sois sûr, c'est qu'on parle là des 40 ans d'histoire de la radio, de Radio Rythme Bleu. C'est que cette histoire, elle existe. C'est la l'ADN de la radio. Donc, quelles que soient les évolutions futures, je crois qu'il faudra s'appuyer sur cette histoire, sur ce qui s'est passé, sur ce qui a été fait, parce que c'est une continuité qui se joue, c'est pas autre chose. Donc, la radio va pas changer du jour au lendemain. Il y a quelque chose qui a été créé, qui a été bâti, que les Calédoniens aiment beaucoup. Elisabeth en parlait. Donc, je sais pas ce que seront les 14 000 et quelques autres jours, si ce n'est la fidélité à une histoire qui s'est déjà écrite depuis 40 ans.
Christian?
Moi, je voudrais m'adresser un peu aux auditeurs. Ils sont nombreux à nous écouter. RRB vous a accompagné depuis 40 ans, à vos côtés comme ça, etc. Aujourd'hui, RRB est en difficulté et a besoin de vous. On a besoin de votre soutien et de votre confiance. Annonceurs, auditeurs, pensez-y. Et d'avance, merci.
Un anniversaire, forcément, ça se fête.
Ça se fête, oui. Hein,
et c'est ce qu'on fait depuis le début de la semaine. Peut-être Jean-François...
Même si les circonstances, encore une fois, les auditeurs le comprendront, on est quelques mois après le 13 mai, on sait l'état de l'économie, on sait la situation dans laquelle se trouvent beaucoup de Calédoniens et beaucoup de nos auditeurs. Donc il n'était pas question de faire une grande fête bling-bling avec feux d'artifice et champagne qui coule à flot. Donc on a fait les choses de façon... modeste, on va dire. On voulait marquer le coup, parce que 40 ans, ça se fête, effectivement. Mais donc, on les accompagne depuis hier, on a fait un certain nombre de rendez-vous, on a prévu un certain nombre de choses que Jean-François va vous détailler.
Alors bon, donc, vous avez déjà constaté que depuis hier matin, il y a un quiz. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas joué sur Radio Rythme Bleu. C'était l'occasion de relancer ces jeux auxquels les Calédoniens tiennent beaucoup. Donc ça, c'est déjà une première chose. On entendra aussi un certain nombre de personnalités nous souhaiter un bon anniversaire dans les jours qui viennent par le biais de petits témoignages ou autres. Il y a aussi du côté de l'animation une émission musicale qui se prépare pour samedi matin avec notamment Thierry et Nicolas, parce qu'il s'agit de revenir sur 40 ans de musique. 40 ans de radio, c'est aussi 40 ans de musique, c'est 40 ans de la vie des gens. Donc on reparcourra l'espace musical samedi matin. Et puis surtout, et là avec tout ce qu'on a dit, c'est important, on vous attend à la radio pour la journée porte ouverte samedi prochain. On sera le 8 mars, vous venez de partir de 9h le matin jusqu'à 19h le soir. Ce sera l'occasion de parler, d'échanger, de se rencontrer. Enfin voilà, c'est vraiment la journée qu'on souhaite passer avec vous, et on vous attend nombreux à la radio. Ce sera vraiment la journée des 40 ans pour nous.
Avec une exposition photo qui retrace un petit peu les 40 ans de la radio. Enfin, quelques épisodes en tout cas, mais il y a des photos qui remontent à 40 ans, quand même, les tout débuts de la radio.
Il y en a, on se demande, c'est même pas plus, mais bon...
Non, je confirme, jusqu'à aujourd'hui, quoi, puisque, voilà, c'est une histoire qui se construit en marchant, RRB.
On a fait le tour ?
Moi, je voudrais mettre un petit mot pour les mousquetaires du début. Je pense à Eugénie, bien sûr, à Isabelle, je pense à Claudette Schmitt, qui était présente.
Responsable hein. de la pub.
Responsable de la pub.
Et dont le fils est toujours là, derrière la vitre d'ailleurs.
Le fils est toujours là, Thierry. Voilà. Je pense à des gens qui nous ont accompagnés sur le plan de la sécurité, parce qu'on avait besoin à l'époque. Elisabeth a reçu beaucoup de menaces, a été séquestrée deux fois. Comme ça, je pense à Henri Morigny et à d'autres, bien sûr. Et je crois qu'on ne peut pas ne pas parler d'eux.
Eh bien, merci à tous les trois d'avoir été sur le plateau du magazine Citoyen. Je crois qu'on ne peut pas aussi ne pas parler de Nathalie Germain, de Marianne Ixoué, de Robert Canal et de Claude Iméoch, qui auront aussi fait ce qu'est Radio Rythme Bleu aujourd'hui. Merci. Bravo. À tous les trois d'avoir été merci. Avec nous ce midi.